France Inter.
Et c'est le journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Dans Lyon, la maire d'Avallon savait-elle que d'importantes quantités de drogue étaient cachées chez elle? L'élu est en garde à vue. Deux de ses frères suspectés de s'être servis de son domicile pour cacher leur trafic aussi. Précision à suivre. La taxe lapin ne réglera rien selon certains médecins pas vraiment convaincus par cette annonce du Premier ministre. Une sanction de 5 euros pour les patients qui n'honorent pas leurs rendez-vous médicaux. Vous entendrez un praticien périgourdin. Dans ce journal, nous serons aussi en Moldavie qui se raccorde au réseau électrique européen par peur de la Russie et dans les coulisses de la sélection des danseurs pour les cérémonies olympiques.
France Inter. La maire d'Avallon est toujours en garde à vue ce matin.
Jamila Absaoui, à la tête de cette commune de Lyon depuis 3 ans, doit répondre aux gendarmes comme deux de ses frères interpellés hier pour trafic de drogue. On a retrouvé 70 kilos de résine de cannabis au domicile de l'élu ce week-end. Avec une question au cœur des investigations, Delphine Evenou était-elle au courant?
Si l'opération PlaceNet XXL a débuté dans Lyon il y a quelques jours, la brigade de recherche de la gendarmerie d'Avallon travaillait-elle depuis plusieurs semaines déjà sur un vaste trafic de stupéfiants. Parmi les 7 personnes placées en garde à vue, la maire d'Avallon, Jamila Absaoui donc, mais également 2 de ses frères, dont l'un est connu pour trafic de stupéfiants. Ont-ils placé la drogue dans une dépendance de la maison de l'élu à son insu? C'est ce que les enquêteurs vont essayer de savoir lors de ces gardes à vue qui peuvent durer jusqu'à 96 heures. Des perquisitions ont aussi été menées à l'hôtel de ville, dans la pharmacie où travaille la maire et dans d'autres domiciles. En plus des 70 kilos de cannabis, précise le procureur de la République d'Auxerre, près d'un kilo de cocaïne, 7000 euros en liquide et des lingots d'or ont également été saisis à Avallon et dans ses alentours.
3 mineurs, 1 majeur, 4 jeunes hommes mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire cette nuit dans l'Essonne, après la mort de Chemseddine, 15 ans, roué de coups jeudi dernier en sortant de son collège à Viry-Châtillon. Ce qui ressort de la garde à vue des suspects, c'est que ce déchaînement de violence aurait pour origine un différend concernant la sœur de 2 d'entre eux avec qui la victime discutait sexualité. La jeune fille de 15 ans également n'était pas présente lors de cette agression, mais selon le parquet, elle savait ce que ses frères envisageaient de faire. Elle a désormais interdiction de paraître dans le département. À Paris, l'incendie d'un appartement a fait 3 morts hier soir dans l'est de la capitale, le 11e arrondissement. L'enquête devra déterminer les origines pour l'instant incertaines du sinistre. Elle est ouverte, cette enquête, notamment pour homicides involontaires.
La taxe lapin est-elle vraiment applicable?
C'est l'une des mesures annoncées ce week-end par le Premier ministre pour répondre à la crise des soins en ville. Une pénalité de 5 euros pour les patients qui n'honorent pas un rendez-vous médical ou annulent moins de 24 heures avant. Gabriel Attal dit espérer récupérer au moins 15 millions de créneaux perdus chaque année. Ce sera aux médecins de décider de l'appliquer ou non, cette sanction, à leur patientèle. Un faux problème pour le docteur Bruno Hamel, président de l'Ordre des médecins en Dordogne.
C'est très illusoire. On est dans un discours plutôt politique qu'autre chose. En fait, il y a plusieurs raisons pour qu'un patient n'honore pas son rendez-vous. Et la première raison, c'est que quand il veut prendre un rendez-vous, il est donné tellement loin de la demande que le jour où le rendez-vous arrive, soit le patient est guéri spontanément, soit il a trouvé quelque part un autre médecin qui a pu répondre plus rapidement. C'est déjà de comprendre pourquoi il y a autant de lapins alors qu'avant il n'y en avait pas autant. La deuxième chose, c'est en pratique, comment faire pour faire payer 5 euros à quelqu'un? Ça ne peut pas être fait par la sécurité sociale qui refusera bien entendu et à juste titre d'honorer quelque chose qui n'a pas été fait. Il faudra que ça soit déboursé par le patient lui-même, lequel patient ne donnera pas suite, ou alors il faut prendre un huissier pour toucher 5 euros. Moi, je crois qu'on est un petit peu dans un discours politique qui n'a pas de fondement.
Le docteur Bruno Hamel avec France Bleu Périgord. Il se retrouve ce matin à 9h, mais impossible de savoir jusqu'à quelle heure leur discussion va se prolonger. Dernière séance de négociation aujourd'hui sur l'emploi des seniors entre syndicats et patronats. Sans garantie de succès à l'issue, l'objectif est d'améliorer le taux d'emploi des plus de 60 ans, mais au-delà de ça, l'enjeu est aussi politique pour les partenaires sociaux. En cas d'échec, l'État reprendra la main alors que se profile une nouvelle réforme de l'assurance chômage. On y revient donc avec votre invitée Laetitia dans une quinzaine de minutes. Une chaleur exceptionnelle ce week-end en France, avant la chute des températures d'ici demain et le retour de la pluie qu'on n'avait pas vraiment oublié, à vrai dire, dans plusieurs régions comme la Gironde ou la Provence. On a même atteint des records de précipitations au mois de mars. Et ce cocktail extrême douceur, forte humidité n'est paradoxalement pas une bonne nouvelle pour les plantations agricoles, comme l'explique Serge Zaka, il est docteur en agroclimatologie.
Ces coups de chaleur vont permettre d'augmenter l'évapotranspiration, donc de sécher les sols. Par contre, ça a des effets négatifs sur la vitesse de croissance des végétaux. Les végétaux se développent beaucoup plus vite et c'est très problématique parce qu'on est sur des records d'avance de végétaux. On a gagné à peu près 2 semaines depuis 40 ans, ce qui est énorme en réalité. Le printemps commence 2 semaines plus tôt pour les végétaux, tandis qu'en automne, on a perdu également 2 semaines puisque les végétaux perdent leurs feuilles plus tard. Donc en tout, on a perdu 4 semaines sur l'hiver. Les végétaux, lorsqu'ils se développent plus tôt au cours du printemps, ils seront beaucoup plus sensibles premièrement au risque de gel et deuxièmement, ils vont commencer à consommer de l'eau plus tôt pour leur développement. Cela accroît en fait la consommation de l'eau totale sur l'année puisque c'est 4 semaines d'eau supplémentaire à donner aux végétaux et notamment ça peut être problématique quand il y a des sécheresses comme dans les Pyrénées-Orientales par exemple.
Serge Zaka avec Mathilde Dehimi.
L'opposition de la communauté internationale, États-Unis en tête, n'y change rien.
L'armée israélienne annonce préparer une opération à Rafah, dans l'extrême sud de la bande de Gaza, dernier refuge pour près d'1,5 million de Palestiniens, mais aussi dernier bastion du Hamas selon Israël. Alors est-ce pour se concentrer sur Rafah que quelques heures plus tard, l'armée a retiré ses troupes de Khan Younes. En tout cas, l'état-major prévient, la guerre qui a commencé il y a 6 mois sera encore longue. Elle a coûté la vie jusque-là à plus de 33 000 Gazaouis selon le bilan du Hamas. Bilan très lourd aussi au Mozambique après le naufrage d'un ferry surchargé. On compte plus de 90 morts et les recherches continuent. Il y avait 130 passagers à bord. Les autorités affirment qu'ils se sont précipités sur ce bateau pour fuir suite à de fausses informations sur l'épidémie de choléra en cours dans le pays. En Moldavie, où l'on craint un jour l'extension du conflit ukrainien, débute cette semaine la construction d'une ligne électrique pour relier le réseau du pays à la Roumanie voisine et donc au réseau européen. L'idée, c'est de moins dépendre de l'énergie produite en Transnistrie, cette région moldave qui a fait sécession au profit de Moscou. Les explications à Chișinău de Maria Gert Niculescu.
Avec une capacité de 500 MW, la nouvelle ligne électrique raccordera la Moldavie au réseau roumain. Objectif, couvrir 50% de la demande moldave sans passer par la Russie. Ruslan Surugiu, responsable du projet.
La diversification des importations d'énergie, étant donné que la Moldavie a très peu de ressources propres, est cruciale pour atteindre une réelle indépendance dans son développement.
L'électricité moldave est actuellement produite par l'usine de Kouturgan en Transnistrie, région pro-russe et autoproclamée indépendante, qui importe gratuitement le gaz russe et revend ensuite l'électricité au gouvernement moldave. Ruslan Surugiu.
Il n'y aura pas d'interdiction d'acheter l'électricité auprès de l'usine de Kouturgan. La seule différence sera que la Moldavie n'en dépendra plus autant.
Certains craignent toutefois une augmentation des prix. Tatiana Ekizli habite à Kangashi Kuldesus, où débutent cette semaine les excavations.
Cette électricité européenne sera plus chère, mais nos salaires sont très bas. Nous ne pourrons pas nous le permettre.
Au total, 3 nouvelles lignes électriques doivent voir le jour d'ici 2028 pour couvrir la totalité de la demande moldave.
Maria Gert Niculescu en Moldavie pour Inter.
Ils seront au cœur des cérémonies des Jeux.
Plusieurs centaines de danseurs animeront tant l'ouverture que la clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et leur recrutement, c'est en ce moment. 3000 candidats ont postulé. Les auditions sont sur le point de s'achever. Pour France Inter, Guillaume Batin a pu y assister. Reportage.
Les 250 danseurs convoqués ce matin viennent du monde entier. Les meilleurs seront sélectionnés pour les 2 cérémonies d'ouverture, olympiques et paralympiques.
Bonjour à tous, comment ça va ?
Super, à tout à l'heure.
Après un bref échauffement, les candidats apprennent 2 chorégraphies au pas de course. L'apprentissage accéléré se poursuit en musique. Marie-Catherine Ettori est la directrice des cérémonies de Paris 2024.
Il faut être capable de s'exprimer, je pense, dans la performance artistique technique. Mais il y a aussi ce petit supplément d'âme que l'on doit fournir pour révéler autre chose que juste une performance technique, une envie d'en être et une expression.
Vient l'heure de l'audition, elle est filmée, chaque danseur porte un numéro, les jurés prennent des notes. Et après 3 heures intensives, c'est le soulagement.
Je m'appelle Emmanuelle. Je suis danseuse et cascadeuse. Moi, je serais super fière de faire partie de ça. Et cet événement complètement fou, réunir autant de danseurs dans un seul endroit, c'est incroyable. Jamais j'aurais l'opportunité de danser devant autant de gens.
La fin de l'audition a été tenue au secret, car une partie de la musique et des pas de danse sera au programme les 26 juillet et le 28 août.
Oui, 26 juillet, ouverture des Jeux Olympiques. 28 août, les Paralympiques. Si par tout hasard, vous n'aviez pas encore le calendrier en tête, Laetitia.
Merci beaucoup, Alexis Morel, de me le rappeler. Il est 6h10 et d'ailleurs, vous cédez la place à Cédric Guillou pour l'Esprit Sport. Bonjour Cédric.
Bonjour Laetitia.
Et vous, vous nous parlez ce matin de la sortie d'un documentaire sur un jeune sportif qui a réussi un joli défi.
Alors qu'il n'était pas du tout programmé pour le faire, Laetitia. Ce jeune sportif, c'est Mathieu Tullier. Il a 22 ans. Enfin, il avait 22 ans au moment du tournage du documentaire. Et il s'était lancé un pari fou alors qu'il n'était pas du tout sportif et qu'il était même beaucoup porté sur l'alcool et le tabac. Terminer l'Ironman de Vichy.
On rappelle les distances.
3 800 km de natation, 180 km de vélo. Et pour finir, un marathon. L'Ironman, c'est le Graal pour un triathlète. Et dans ce documentaire intitulé « Nouveau souffle » et avec l'aide de l'association Entraide Addict, eh bien Mathieu Tullier raconte comment le sport peut permettre de se remettre dans le droit chemin.
Et aujourd'hui, je prépare l'Ironman de Vichy.
Après une fracture ouverte de la clavicule en jouant au rugby, mon sport d'enfance, je voulais pas arrêter le sport. Donc je me suis tourné vers la course à pied, puis petit à petit vers le triathlon. La deuxième raison, elle est plus personnelle. J'avais besoin de répondre aux critiques et aux moqueries. Depuis tout jeune, on m'a toujours dit que j'étais bon à rien. Donc participer à un Ironman, c'était pour moi un moyen de leur prouver qu'ils avaient tort et de me convaincre moi-même du contraire. La dernière raison, c'est que comme la plupart des étudiants, je buvais, fumais et je pouvais plus m'en passer. J'avais besoin de quelque chose qui me force à arrêter.
Alors il s'est lancé dans cet Ironman et à force de sueur et d'entraînement, eh bien Mathieu a réussi son pari.
Après avoir participé à l'Ironman de Vichy, j'étais au bout de mes forces. Pendant ma préparation, j'avais un rythme effréné. Tous les jours, j'allais en stage, en plus des 15 heures de sport par semaine, et je devais aussi m'occuper du documentaire.
Documentaire de 52 minutes qui vient d'être bouclé, à découvrir le 29 avril, sachant que la campagne de financement participatif pour compléter le budget du projet se termine après-demain, sachant également que Mathieu et ses amis sont en discussion avec plusieurs diffuseurs pour le proposer ensuite sur une plateforme.
Merci Cédric Guillou, c'était à l'Esprit Sport.